4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
Après les discussions entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov à Riyad, Donald Trump continue de s'attaquer à Volodymyr Zelensky. Il qualifie son homologue ukrainien de dictateur sans élection. On fait le point en début de journal. En Turquie, vague d'arrestations ces dernières semaines. Ce mercredi, c'est le patron des patrons, Orhan Turan, qui a été interpellé après des critiques contre la justice. Et puis le Brésil va rejoindre l'OPEP+, le cercle élargi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une décision qui peut surprendre car le pays va accueillir en fin d'année la COP30 sur le climat. La situation se tend entre les États-Unis et l'Ukraine alors que l'administration Trump négocie un accord de paix directement avec la Russie sans demander l'avis de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky se montre critique et Donald Trump lui répond aujourd'hui de manière très virulente. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump n'a manifestement pas apprécié que Volodymyr Zelensky dise qu'il vit dans une bulle de désinformation russe. Alors il lui répond, comme il sait le faire, dans un message sur son réseau social personnel, la charge est dure, le président ukrainien est ramené à son ancien métier de comédien, au succès modeste à scène Donald Trump, mais surtout, il le qualifie de dictateur sans élection qui refuse d'en organiser et qui est très bas dans les sondages, autant d'éléments de langage de la Russie. Pour Donald Trump, Volodymyr Zelensky a réussi à baratiner les États-Unis pour dépenser 350 milliards de dollars dans une guerre qu'il ne peut gagner. Il a joué de Joe Biden comme d'un violon, explique le président américain. Mais il n'y en a pas que pour Volodymyr Zelensky, appelé à avancer vite sous peine de ne plus avoir de pays. Il y en a aussi pour l'Europe qui n'a pas réussi à faire la paix et qui, selon Donald Trump, dépense beaucoup moins que les États-Unis dans cette guerre, alors qu'elle est bien plus concernée que son propre pays, puisqu'un océan sépare les deux continents. Il demande que l'Europe dépense autant que les États-Unis et il répète à deux reprises que lui seul peut apporter la paix en Ukraine. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Volodymyr Zelensky va rencontrer l'émissaire de Donald Trump jeudi. Il espère une rencontre constructive. De son côté, Emmanuel Macron a de nouveau discuté avec ses partenaires européens ce mercredi. Une visioconférence avec 19 chefs d'État, membres de l'UE et de l'OTAN. L'objectif est clair, adopter une posture commune sur l'Ukraine. La position de la France ainsi que ses partenaires est claire et unie, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Le président français est attendu à la Maison-Blanche en début de semaine prochaine aux côtés de son homologue britannique Keir Starmer. En Israël, le forum des familles d'otages a été informé de la mort de 2 enfants et de leur mère. Un 4e otage a également perdu la vie. Les dépouilles doivent être remises jeudi à Israël par le Hamas. Et samedi, 6 otages doivent être libérés en échange de Palestiniens retenus par l'État hébreu. Le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza lors de la 2e phase de la trêve avec Israël. Elle doit commencer début mars. RFI, 6h03 à Istanbul. Après des critiques contre la justice, le patron des patrons, Orhan Turan, a été interpellé. Le dirigeant de la puissante confédération patronale, TÜSİAD, va être entendu par un tribunal de la capitale. Une interpellation qui fait suite à des dizaines d'arrestations ces dernières semaines au sein du monde de la politique, de la culture ou encore de la presse. À Ankara, les précisions d'Anand Loewer.
Au cours d'une réunion le 13 février, le président de la TÜSİAD ainsi que le chef de son haut conseil consultatif avaient prononcé des discours critiques sur l'état de l'économie et de la justice turque. Étonnamment critiques. De la part de ce syndicat patronal, d'ordinaire plutôt prudent, ce que certains lui reprochent parfois. Les deux hommes font désormais l'objet d'une enquête pour diffusion de fausses informations et tentative d'influencer un procès équitable. Ils avaient notamment dénoncé la récente répression visant des dirigeants de l'opposition et des journalistes, faisant le constat d'un pays démoralisé à la confiance ébranlée. Le président de la TÜSİAD, Orhan Turan, entendu le premier par un procureur, avait également fustigé la propagation de la corruption, de la fraude et du marché noir, estimant, je cite, qu'il est devenu plus facile de fonder une organisation à but criminel que de fonder une société. Ces discours, signes d'une frustration certaine au sein de la communauté d'affaires turque, n'ont pas du tout plu au pouvoir. Alors qu'Orhan Turan était entendu par la justice, le président Erdogan a qualifié ses propos de provocation ayant largement dépassé les limites. Anand Loewer, Ankara, RFI.
Un mandat fort pour contrer l'AFD, c'est ce que demande le chef des conservateurs allemands, Friedrich Merz, et ce, à quelques jours des élections législatives ce dimanche. Il a réaffirmé rejeter toute coopération avec le parti d'extrême droite et souhaite réformer le pays pour éviter son ascension. Les analyses sanguines du pape montrent une légère amélioration de sa santé. C'est ce qu'indique le Vatican après une visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni au chevet du pape François ce mercredi. Le souverain pontife souffre d'une pneumonie dans les deux poumons, une infection potentiellement mortelle. Un an après les manifestations d'agriculteurs dans toute l'Europe, la Commission européenne dévoile sa vision pour l'avenir du secteur. Les mouvements de l'hiver dernier avaient poussé Bruxelles à faire des concessions sur la simplification de la PAC, la politique agricole commune. Pas encore d'annonce concrète, mais une ligne directrice. L'agriculture devra être prospère et attractive. Elie Tsiforou est secrétaire générale de la COPA COGECA, une organisation qui représente à Bruxelles les agriculteurs et les coopératives. Elle salue la vision européenne, mais s'inquiète du manque de moyens.
C'est une vision, donc elle ouvre plusieurs voies pour le futur. Une idée clé, c'est la reconnaissance des vulnérabilités du secteur et à la fois ce que le secteur peut offrir et offre à la société, la reconnaissance du rôle des agriculteurs comme entrepreneurs, comme innovateurs. Donc ce sont des messages très importants. Mais ce qui est une source d'inquiétude, c'est que toutes les idées qui sont dans cette vision tiennent ensemble si elles sont soutenues par une politique agricole commune forte. Forte pour ce qui concerne son budget. Et la mention d'un budget fort n'est pas là. Donc ça nous inquiète beaucoup.
Elie Tsiforou, secrétaire général du COPA COGECA, interrogé par Nicolas Feldman. Au Venezuela, les législatives repoussées d'un mois, elles se dérouleront le 25 mai prochain. La dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, avait appelé à boycotter ce scrutin après avoir dénoncé des fraudes lors de la réélection de Nicolas Maduro en juillet dernier. Elle réclame également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. L'Équateur va demander à des pays alliés l'envoi de forces spéciales pour lutter contre le narcoterrorisme. Le président Daniel Noboa a décrété en janvier 2024 un conflit armé contre une vingtaine d'organisations criminelles. L'armée est déployée dans les rues de 7 provinces sur 24. La lutte contre les cartels, principal argument de Daniel Noboa pour la campagne électorale. Presque à égalité à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, il affrontera le 13 avril prochain la candidate de gauche Luisa Gonzalez pour le second tour. Cet officiel de Brésil va rejoindre l'OPEP+, le cercle élargi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une décision qui peut surprendre alors que le pays va accueillir en fin d'année la COP30 sur le climat et qu'il se pose en champion en la matière. Mais voilà, il est dans le même temps un important producteur d'or noir et entend même développer cette activité, Simon Rosé.
Aujourd'hui, 9e producteur mondial de pétrole, le Brésil entend devenir le 5e en 2030. Le Brésil a besoin de grandir, de générer des revenus et des emplois, affirmé ce mardi Alexandre Silveira. Le ministre de l'Énergie annonçait alors l'adhésion de son pays à l'OPEP+. Adhésion cohérente avec la volonté brésilienne de développer ce secteur, en témoignent des projets d'exploitation offshore au large de l'embouchure de l'Amazone. Mais dans les faits, le pays n'aura accès qu'à un forum de discussion, il ne participera pas à la prise de décision de l'OPEP. Le signal envoyé par ailleurs contradictoire avec la volonté affichée par le président Lula de faire du Brésil un champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Gustavo Batista est professeur à l'Institut des géosciences de l'Université de Brasilia, interrogé par Raquel Miura de la rédaction brésilienne de RFI.
Cela n'a pas de sens pour un pays qui va accueillir la COP30. Nous voyons le gouvernement s'allier au pays de l'OPEP avec le discours que cela aidera à les convaincre d'une transition énergétique vers les biocarburants. Je ne vois pas le sens de ce genre de rapprochement. Tout comme je ne vois pas le sens du processus d'exploration pétrolière à l'embouchure de l'Amazone. Pour moi, c'est une balle dans le pied.
Analyse partagée par l'Observatoire du Climat, un réseau de 133 associations civiles et académiques brésiliennes qui regrettent dans un communiqué le choix de l'exécutif de se tourner vers des solutions du passé pour faire face aux défis actuels.
Il était l'un des pères du cinéma africain, le réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint ce mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans. Ses films tels que La jeune fille, Le porteur ou encore Le temps ont profondément marqué le 7e art. Il avait même reçu le prix du jury au Festival de Cannes en 1987 pour l'un de ses chefs-d'œuvre, Yélène. Tout au long de sa carrière, Souleymane Cissé avait critiqué la censure et le mépris qui empêchent selon lui la diffusion des films africains dans le monde. Le ministre malien de la Culture, Mamou Dafé, a fait part de sa tristesse pour la disparition de ce monument du cinéma africain, saluant également un